C'est tout à fait remarquable. Merci, merci beaucoup Marie-Laure, parce que à t'écouter, il y a un nombre considérable de réflexions qui me sont venues ou revenues. Je pense que vous aurez sans doute dans la salle plus de réactions que de questions. Il y a un mot que tu n'as pas prononcé, c'est le mot tabou. Et je pense que il y a en termes de fiscalité, de droit fiscal, des choses à dire à cet égard. Et tu as parfaitement résumé le débat actuel. C'est tout à fait fascinant cette manière dont on parle de la suppression de l'ISF et dont en vérité personne ne parle de l'IFI. Ça me paraît vraiment fascinant. J'ai noté surtout un certain nombre de grandes dates, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Peut-être, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle? Est-ce que d'abord quelqu'un parmi nous, parmi vous, veut poser une question ou rebondir sur tel ou tel thème. Ce qui est fascinant, vous l'avez remarqué. Ah, on a une demande de parole là-bas, si vous voulez bien. Passer le micro. Ce qui est fascinant, vous l'avez remarqué, ce sont les dates. Le 17 juin 1989, c'est quand même le jour où le tiers-État se proclame Assemblée nationale. Le jour du coup d'État, on fait la réforme fiscale. L'impôt sur le revenu en France, il a quand même fallu une guerre mondiale. Et vous vous souvenez qu'on s'y prend deux fois, une loi de juillet 14 et une loi de 1917. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui à cet égard, mais je pense qu'il faudrait tout de même qu'on s'y intéresse. Si le micro veut bien fonctionner.
Pour épargner les petits riches entre guillemets.
Je pense que la réponse est relativement simple en vérité. Hein. C'est le positionnement d'Emmanuel Macron et droite et gauche. En vérité, je vais reprendre un peu dans le passé. Jacques Chirac a toujours été persuadé d'avoir perdu la présidentielle de 1988, moins en raison de Malik Oussekine qu'en raison de la suppression de l'IGF, qui a été tout de même la première décision politique de la nouvelle majorité en 86. Et je parlais de tabou tout à l'heure, l'IGF ou l'ISF à droite a toujours été tabou. Donc il y a une première réponse à votre question qui est on supprime parce qu'on ose ce que la droite n'a pas fait, mais pour autant, comme on n'est pas de gauche, on ne rétablit pas ni l'épithète de 1981-82, ni la logique et l'épithète de 88-89. Je pense qu'elle est là, la réponse. Il me semble que, et c'est très très intéressant, mais on en reparlera, et je parle sous le contrôle de Pascal cet après-midi, je pense que le prisme macronien est surdéterminé par l'analyse économique de l'ISF ou de l'IGF, dont tous les économistes, si tant est qu'il y ait une unanimité en la matière, vous disent économiquement, ce n'est pas un bon impôt. Et donc, pour moi, c'est une manière d'évidence. D'évidence, on a l'habilitation, la légitimation par le suffrage, on a un positionnement politique qui explique qu'on fasse. Et en vérité, je ne suis même pas sûr qu'on soit posé la question. Je n'avais pas réfléchi cette semaine, mais je crois que l'expression IFI, imposition sur la fortune immobilière, s'est imposée d'évidence. Je ne suis pas sûr qu'on soit posé votre question.
sens qui était si clair que ça quand il y a eu les débats sur, à l'Assemblée nationale notamment et au Sénat.
Alors, peut-être pour répondre ou pour ouvrir un peu par rapport à monsieur, puis on reviendra peut-être sur la décision du Conseil. Moi, j'ai été très surprise. Effectivement, il y a une vision macronienne, il y a un esprit macronien à cette réforme. Retourner à l'IGF, c'est retourner en arrière, et je ne pense pas que le président de la République soit sur cette tonalité. Il dit on marche droit devant, on regarde l'horizon. Bon, c'est un peu sa méthode hein, sur bien des sujets. Moi, j'ai été un peu surprise parce que j'ai lu que dans une note, le président de la commission des finances du Sénat a précisé, alors une note un peu confidentielle destinée aux sénateurs, le président de la commission des finances du Sénat a précisé que l'impact du remplacement de l'ISF par l'IFI sur les contribuables n'a pas été chiffré par le gouvernement, n'a pas été chiffré non plus ses effets sur l'emploi et sur la croissance. Autrement dit, on installe une réforme et on n'évalue pas, on ne sait pas de chiffrer. Alors que l'évaluation, c'est quand même au cœur aussi du discours du président. Et il nous a répondu en décembre et encore en janvier que, eh bien, il faut attendre l'évaluation puisqu'une mission de suivi a été mise en place. La mission de suivi de cette réforme, dans les 2 ans, fera le bilan. Mais on n'a pas anticipé sur les effets, sur la croissance, l'emploi. Enfin, j'étais un petit peu surprise de découvrir cette absence. Quant à la décision du Conseil constitutionnel, alors, c'est pas parce que Pierre Mouzet et moi, nous sommes constitutionnalistes aussi, que nous nous empêchons de critiquer le Conseil constitutionnel. Je crois qu'on le fait beaucoup. On peut critiquer les décisions du Conseil constitutionnel, notamment certaines grandes décisions ces derniers mois, parce qu'elles ne sont pas motivées, parce qu'elles ne sont pas suffisamment motivées. Et là, le Conseil constitutionnel a tout à fait entendu, sans le discuter, l'objectif de rendement. Le rendement budgétaire, eh bien, c'est une motivation qu'a entendu le Conseil constitutionnel. Le législateur peut poursuivre un objectif de rendement budgétaire. Et c'est un peu étonnant de voir que finalement, il n'a pas vraiment, le gouvernement, chiffré le rendement budgétaire. Alors, j'ai vu passer très rapidement qu'en septembre, on disait que finalement, l'IFI était un peu plus productif qu'on ne le pensait, ou que l'IFI avait rapporté un peu plus qu'on ne le pensait, mais c'est vous qui nous le direz probablement mieux qu'on ne pourrait le faire.
On va interpeller comme tu y vas.
Le double sens. Mais même si pas tout à fait bien entendu la question, je crois avoir compris le sens grâce à Pierre qui a rebondi dessus. En fait, si vous avez bien écouté Marie-Laure, à un moment, elle a dit un mot, neutralité. Donc, bon, moi, je le connais au sens économique, mais j'ai cru comprendre que pour les juristes, c'était pareil. Ça veut dire, en fait, que quand on fait un prélèvement, comme ça, au moins, c'est neutre, prélèvement, quand on fait un prélèvement, il faut essayer que ça ne modifie pas l'activité économique, les choix, les décisions des agents. D'accord ? Bon. Alors, quiconque a fait une première année d'économie sait que ça, c'est mort, c'est impossible, sauf à faire un prélèvement forfaitaire. Ça veut dire, je vous vois à vous, je vous dis, vous me devez 100 euros. Je ne vous dis pas pourquoi, 100 euros. Donc, évidemment, ça n'arrivera jamais, ça. Et si on ne fait pas ça, si on vous dit, vous devez 2% de votre revenu, si vous vendez votre maison, vous devez donner 3%, c'est fini, l'impôt ne peut pas être neutre. Alors, on peut le montrer avec des courbes, je vous épargnerai les courbes et tout ça, mais on peut le démontrer, donc c'est fini, c'est sûr, l'impôt ne peut pas être neutre. Et si on regarde ce que vous appelez la politique macronienne, c'est typiquement, justement, ayant considéré que l'impôt n'est pas neutre, on va s'en servir pour modifier les choix des agents économiques. Alors, ce qui est assez drôle, en général, c'est qu'on fait ça, mais en même temps, on dit qu'il est neutre. Il y a un double discours, mais clairement, l'impôt n'étant pas neutre, dans ce cas précis, on veut modifier les choix. Sur le chiffrage, si, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas un chiffrage, puisque grâce à ces chères étudiantes, j'ai un peu travaillé sur quelque chose que je ne connais pas, donc il y a plein de chiffres, et notamment l'INSEE, si on s'y plonge, on a vraiment plein de chiffres. Pas des chiffres, évidemment, de prospective, mais sur les choses établies. Et donc, si vous voulez, on en parlera cet après-midi. Je me méfie parce que Pierre, dès que je dis un chiffre, il dit « Moi, les statistiques, j'y crois pas, donc j'évite les chiffres. » D'accord ? Mais on a plein de chiffres. Il est vrai que le président a dit qu'il y aurait une commission, un comité, moi j'appelle tout ça des agences, une agence qui allait étudier ce que donnait la transformation de l'ISF en IFI. Mais la vérité, je crois qu'il a dit ça pour temporiser, parce qu'on sait pertinemment que ce que va donner l'IFI. Alors, là aussi tu as raison, on a fait semblant de se rendre compte que ça allait rapporter plus que prévu, mais en regardant bien, c'est assez normal parce que apparemment, on a mis plus de contrôle et on a plus fait attention à que déclarer les gens sur leur patrimoine immobilier. Donc évidemment, on va dire que... Alors, il ne faut pas dire fraude, il faut dire quoi ? Erreur. Enfin, quelques erreurs étaient commises, omissions par les contribuables. Et évidemment, quand on parle de patrimoine en plusieurs millions d'euros, même si on les taxe à 0,5%, une petite erreur peut donner quelques sous, quoi. Mais je crois vraiment que sur l'idée macronienne, c'était justement parce que l'impôt n'est pas neutre qu'on essaie de n'imposer que, on va dire, le patrimoine foncier, enfin en tout cas, pas le mobilier. D'accord ? Je crois que c'était vraiment justement profiter de ça. Alors après, si ça vous intéresse, on en parlera cet après-midi, voir si l'objectif est peut-être atteint. Ça, c'est autre chose.
Nous avons une question encore là-haut, une ou deux. Il faudra, alors on pourra avoir de toute façon d'autres questions tout à l'heure après les autres interventions. Je voudrais qu'on se limite sans doute à une ou deux pour l'heure.
Excusez-moi, c'était s'agissant du chiffrage. J'avais vu un chiffre d'une association qui s'appelle France Générosité. Ils avaient constaté au bout de quelques mois, suivant cette réforme, qu'il y a eu une baisse des dons faits aux associations, notamment humanitaires, de à peu près 54%. Donc, tout à l'heure, vous aviez parlé du mot optimisation fiscale, et j'aimerais savoir, enfin, c'est plutôt une remarque, si on peut appeler cette optimisation fiscale une dépréciation de la solidarité citoyenne, et où est-ce qu'on peut considérer que cet impôt est une certaine manière permettrait de retirer, on va dire, à ceux qui bénéficient de revenus de ces associations, de certains revenus ou aides ou subventions.
Je vais prendre la main et vous répondre très rapidement, parce que de toute façon, on en reparlera. Allez-y.
Vous payez 20 000 euros à l'État, soit vous payez 20 000 euros, 5 000 à l'État et 15 000 à une association. L'association, vous lui donnez 20 000 euros, mais on considère qu'à hauteur 75%, ça correspond au paiement de votre impôt. À partir du moment où les gens payent moins d'impôts, bah évidemment, ils ne se disent pas bah, « je vais donner en plus ». Et c'est vrai que politiquement, c'est des impacts qui sont inhérents à la mise en place d'un impôt pour lequel on dit aux contribuables, soit vous payez l'État, soit vous payez quelqu'un d'autre, c'est le vote avec tes pieds, bah, s'ils n'ont plus besoin de voter, ils ne votent plus, quoi. Mais là, vous rentrez, je prends la parole juste après, mais c'est impressionnant à quel point, en une heure de temps, on est déjà dans le politique et pas du tout dans la technique, et je pense qu'il faut juste réatterrir sur la technique. Après, la politique, moi, je suis... Juste ma sensation, c'est une heure à la fac, c'est déjà de la politique, alors que j'avais pris le sujet en disant, tiens, ils sont intéressés par la technique, pourquoi pas, il y a 40 pages de texte. Voilà.
Monsieur, peut-être pour une dernière question, et puis Mme de la rue du Camp va venir ensuite, et on pourra avoir à nouveau questions et débats tout à l'heure.
J'aurais voulu revenir un petit peu sur le côté historique. On a vu qu'au début, après la Révolution, l'impôt était sur le patrimoine immobilier parce que c'était plus stable. Ensuite, avec la révolution industrielle et la loi de 1872, on a imposé les valeurs mobilières. Pourquoi aujourd'hui revenir sur l'impôt seulement sur l'immobilier? Est-ce que c'est plus une question, une recherche de stabilité, ou alors simplement une question politique?
Je pense qu'il y a une intervention c'est sur l'assiette. Hein. Et donc, on va en parler, pourquoi se concentrer sur l'immobilier. Mais alors là aussi, c'est un choix politique. Alors, je vois ma collègue là qui vous répondra par son intervention. Je ne veux pas...
Cela étant, je complète en une seconde. Il y a un élément de réponse qui est très simple. Hein. C'est que... Bah, des actions, de l'argent, des bijoux, des œuvres d'art, ça peut circuler. Un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, ça ne circule pas. Je retire ce que je viens de dire, ça circule. Il y a des hôtels.